Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Troisième chose que le diable essaye de vous prendre, ce sont les opportunités. Quand les temps furent pleinement accomplis, il envoya son fils. Quand on parle d'opportunité, on parle de saison, on parle d'opportunité, on parle de moment T, de moment Kairos. Vous devez savoir donc que les jours se succèdent, les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Okay. Ce n'est pas parce que vous avez toujours été au culte le dimanche que vous devez penser que ce dimanche sera comme les autres. Parfois, c'est exactement le dimanche où tu n'as pas envie de venir à l'église, où Dieu t'a fixé rendez-vous. À chaque fois que je n'ai pas eu envie, parce que ça m'arrive, de ne pas avoir envie d'aller à l'église, parfois les gens m'énervent. Donc à chaque fois que ça m'arrive de ne pas avoir envie d'aller à l'église, c'est exactement ce jour-là que je sais que j'ai un rendez-vous avec le divin. À chaque fois que je me suis retrouvé, mon père est décédé, il y a quelques années. J'étais étudiant aux États-Unis dans une université théologique. Mon père décède 2 jours après mon anniversaire. Je quitte les États-Unis pour aller à l'enterrement, ça se passe super mal. Déchirure familiale, on est spolié, on perd tout. Et je repars aux États-Unis pour étudier. Profondément troublé parce que mon père est mort. Et je ne comprends pas parce que je suis en train d'étudier pour devenir pasteur. J'étudiais pour devenir pasteur. Je suis en train d'étudier pour devenir pasteur. C'est pas juste que je me suis levé un jour, tu vois. Non. J'ai étudié pour devenir. Et donc, pendant 1 an, on va dire 6 mois, pour être un peu plus correct. Pendant 6 mois, quasi 1 an, parce que je sais qu'il y a autre chose, mais j'arrive plus à prier. J'arrive plus à prier, j'arrive plus à lire la Bible. J'arrive plus à me retrouver dans la présence de Dieu, je vais plus à l'église. Je suis étudiant, je vais à l'école, je vais plus au culte. À ce que j'en veux à Dieu. Je sais que ça vous est jamais arrivé, mais nous. Je t'inclus parce que bon, je peux pas rester seul, je suis sur ton hôtel et tout. Nous, ça nous arrive de lui en vouloir. J'en veux à Dieu parce que je n'arrive pas à réconcilier le fait qu'il soit un bon Dieu et qu'il laisse de mauvaises choses arriver à ses enfants. Et donc c'est un bon Dieu, mais si tu es un bon Dieu, pourquoi mon père est mort? Mon père décède, il est en train d'écrire sur son bureau, au salon, il est en train d'écrire les projets de l'année. Il meurt en train d'écrire ses projets pour l'année. Il s'affale sur le bureau. Ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs rentre d'école et c'est elle qui le trouve affalé sur le bureau. Moi, je ne suis pas là. Donc, j'en veux à Dieu parce que ça n'a pas de sens. Je suis en train d'étudier pour être pasteur. Je te donne ma vie depuis que j'ai 14 ans. Je te sers. Je ne connais pas un autre Dieu. Et puis, tu laisses mon père mourir. Pourtant, tu as dit que tu veilles sur... Donc, je ne vais plus à l'église. Et puis, un jour, parce que je commence à redevenir païen, en tout cas, pas en action, mais en émotion, en pulsion et autres, moi-même païen, je ne m'aime pas. Donc, j'ai peur. Non, authentique, j'ai peur. Vraiment peur de ce que je risque de redevenir. Et donc, je prie. Une prière qui dure 3 minutes, 5 minutes max. Une petite salle, je m'agenouille et je dis à Dieu ces mots. Je n'ai pas envie de te parler, mais je sens que je commence à redevenir païen. Si je suis païen, toi et mon père. Bien sûr. Authentique. Toi et moi, on perd. Ce ne sera pas bon pour toi, ce ne sera pas bon pour moi. Débrouille-toi. Je me suis levé, je suis sorti. Une semaine plus tard, une envie que j'avais plus eue depuis des années, l'envie de prier revient. Et j'ai prié des mois, pas des années. Des mois revient. J'ai prié et je suis allé à l'église. Et donc ce jour-là, je n'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même parce qu'il a commencé à ramener la flamme. Et ce culte, c'est pour ça que j'ai dit tout ça, ce culte, un peu comme aujourd'hui, je vais au culte. Tu peux prendre mon portefeuille, s'il te plaît. Première poche. C'est juste un symbole. Mais non, pas celle-là, la deuxième. Voilà. Donc je suis au culte. Non? Oui. Merci. Je suis au culte et pendant que je suis au culte, un peu comme on va faire tout à l'heure, le modérateur demande qu'on prie ensemble. Et donc moi je suis là et puis il y a un couple qui vient, un couple caucasien, un couple d'Américains blancs viennent et ils prient avec moi. Oui, je suis à l'église mais j'ai toujours pas envie de prier. Donc je prie en français parce que j'ai pas envie qu'ils entendent. Donc on attrape les mains l'un de l'autre et pendant qu'on prie, je prie et je dis à Dieu, fais comme tu veux. Et eux, ils prient en anglais, je comprends. Et après, ils partent. On dit amen, amen, ils partent. Puis le couple revient. Et le, je crois que c'est le monsieur ou la dame, l'un des deux me demande, est-ce que vous êtes étudiant à Oral Roberts University? Je dis oui. Ils disent, pendant qu'on priait pour vous, Dieu nous a mis à cœur de vous donner un chèque. Pour ceux qui ont été étudiants, vous savez que quand on est étudiant, on voit rarement les chèques. Dieu nous a mis à cœur de vous donner un chèque. Dans mon cœur, je dis, ça c'est Dieu qui vous parle. Vraiment, il faut obéir. Donc il sort un chèque, il me donne le chèque. Donc quand il me donne le chèque, j'ai pas de chèque. Mais quand il me donne le chèque, je prends le chèque et tout, je regarde, c'est $150. À l'époque, c'est beaucoup, en tout cas pour moi. Et je me rends compte que si j'étais pas venu au culte, j'aurais jamais eu. À partir de ce jour, même quand... Vous riez parce que c'est pas votre histoire, mais je n'ai plus manqué le culte. Parce que je ne savais jamais quand Dieu allait toucher le cœur de quelqu'un. Vous me donnez l'argent. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui Dieu veille sur toi. Même quand tu n'en as pas l'impression. Arrête de sécher le culte. Quatrième chose et la dernière, ensuite je vous... On va prier sous peu, mais quatrième chose et la dernière. Que le diable essaye de vous voler, et de mon point de vue, c'est la chose qui a le plus de valeur dans la vie d'un homme. C'est le temps. S'il y a une chose que le diable veut que vous perdiez, c'est votre temps. Parce que la destinée se mesure en temps. Les opportunités, c'est dans le temps. L'argent se gagne dans le temps. Les relations se bâtissent dans le temps. Ézéchias est sur le point de mourir. Il a l'or, il a l'argent, il a le palais. Mais Dieu lui dit, il n'a plus de temps. Ézéchias prie pour que Dieu rajoute le temps. Vous savez, quand vous avez du temps, mon Dieu, je t'ai entendu, quand vous avez du temps, vous avez l'opportunité de faire de meilleurs choix. Caïn a tué son frère, c'est son jumeau, Abel. Il l'a tué. Normalement, il mérite la mort. C'est le premier meurtrier de l'histoire de l'homme. C'est un fratricide. Dieu dit à Caïn, tu seras errant et vagabond. La terre qui a bu de ta main le sang de ton frère ne te donnera plus sa richesse, son pouvoir. Caïn entend le jugement de Dieu et Caïn dit, Seigneur, ton jugement est trop dur. Ton châtiment sur moi est trop dur. Il dit, on me trouvera et on me tuera. Et la Bible dit que Dieu va mettre sur Caïn un signe. Le signe que Dieu met sur Caïn, ce n'est pas une malédiction. Le signe que Dieu met sur Caïn, c'est le signe qui permet que quand on le trouve, on ne le tue pas. Ça veut dire que malgré ses erreurs, Dieu lui a rajouté du temps. Vous ne m'entendez pas. Alors que Caïn entend la prophétie qui vient de la bouche de Dieu et qui lui dit, tu seras errant et vagabond. Dans le temps, la Bible dit que Caïn va se marier, va enfanter, sa femme va enfanter, Caïn va bâtir une ville et il va donner à la ville le nom de son fils. Quelqu'un qui devait être errant et vagabond parce qu'on lui a donné du temps a fait mentir la prophétie de la bouche de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, je prie le Dieu des cieux que Dieu te rajoute le temps. Quelles que soient les opportunités que tu as perdues, les relations que tu as perdues, les biens que tu as perdus, je décrète et je déclare qu'alors que tu es sous le son de ma voix, 2025, tu ne perdras pas de temps. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'entends Joël 2:25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées les sauterelles. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les années perdues, toutes les saisons perdues, toutes les opportunités perdues, 2025 est l'année de ta restauration. Je dis 2025 est l'année où Dieu remplace le temps. Je prie le Dieu des cieux que tu saches que quelles que soient les erreurs que tu as commises, les fautes dont tu as été l'auteur, je décrète et je déclare que toi tu ne mourras pas avant ton temps. Je prie que Dieu entende ma voix ce matin alors que je me tiens sur l'autel de Dieu. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce qui t'avait été enlevé te soit rendu dans le temps.
qu'il y ait restauration. Restauration de tes relations. Restauration de tes opportunités. Restauration de tes biens. Et restauration de ton temps. Au nom de Jésus, donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration.
Le texte que j'ai lu avec vous en Matthieu, parce que j'ai plus beaucoup de temps, le texte que j'ai lu avec vous en Matthieu parle d'une histoire que nous connaissons, nous ne connaissons que trop bien pour nous les lecteurs de la Bible. Cette histoire où Jésus arrive, envoie ses disciples aller chercher dans un village. Certains évangélistes parlent juste d'un âne, d'autres juste d'un ânon. Et là, ce texte en Matthieu parle d'une ânesse et d'un ânon. Ah. Le premier verset dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous ». Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis rendu compte que pour vous restaurer, là j'ai parlé de ce que le diable veut prendre, de ce que le diable veut voler. Je veux parler rapidement de comment Dieu vous restaure à cause du temps. Je n'ai pas dit comment on perd ou qu'est-ce qui provoque la perte, parce que je n'ai pas le temps. Mais je veux vous parler de comment Dieu provoque la restauration. Je veux attirer votre attention sur la restauration rapidement. Le premier verset, pour ceux qui l'ont devant les yeux, dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus les envoya en disant « Allez au village devant vous. » Le texte ne mentionne pas les disciples qui vont être envoyés, de nom. Le texte ne mentionne pas la ville, le village dans lequel ils vont entrer. Le texte ne mentionne pas la géolocalisation précise de l'ânesse et de l'ânon, mais le texte mentionne des éléments importants. Ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, et Jésus les envoya dans le village devant eux. Écoutez-moi bien. Ces éléments sont importants. Pourquoi? Parce que pour vous emmener à vivre certaines choses, Dieu ne va pas vous emmener à Jérusalem. Écoutez-moi, je vais expliquer. Ils approchent de Jérusalem, mais ils sont déjà arrivés à Bethphagé. Certaines personnes, à cause de la vision, fixent un lieu, un temps précis pour recevoir de Dieu quelque chose, sans se rendre compte que le fait que vous vous en approchiez déjà veut dire que vous êtes déjà arrivé quelque part. Tu n'es pas à Jérusalem, mais tu es déjà à Bethphagé. Et si tu attends Jérusalem, il y a des choses que tu ne vivras pas, que Dieu ne veut pas que tu vives à Jérusalem. Il veut que tu les vives à Bethphagé. Il y a des instructions que Dieu ne donne pas quand on est arrivé à Jérusalem, mais quand on approche de Jérusalem, là où on est à Bethphagé, il y a déjà des choses que Dieu veut te donner, que Dieu veut te dire. Arrêtez de remettre à demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui parce que vous ne vous sentez pas prêt. Dieu peut vouloir te restaurer maintenant, mais toi tu dis à Dieu, non, attends Jérusalem. Vous m'entendez ou pas? J'essaye de vous dire que même quand vous n'êtes pas arrivé encore là où vous voulez arriver, vous n'êtes plus où vous étiez. Considérez là où vous êtes, parce que là où vous êtes, Dieu veut vous restaurer. N'attends pas Jérusalem. Tu es en approche de Jérusalem. Considère où tu es déjà. Si Dieu dit qu'il veut vous donner la ville, vous dites à Dieu, non, on n'est pas encore assez nombreux. C'est parce que vous considérez que pour vous donner la ville, Dieu a besoin du nombre. Dieu ne donne pas la ville à un grand nombre. Dieu donne la ville aux gens qui sont d'accord qu'il soit leur grand nombre. À chaque fois que Dieu engage le peuple d'Israël dans un combat, Dieu ne fait pas ce que les hommes font. Les hommes cherchent les gens. Dieu réduit les gens. Dieu réduit la liste. Dieu réduit le nombre. Parce que Dieu ne veut pas que les gens pensent que la victoire est attachée au grand nombre. Dieu veut que les hommes sachent que la victoire est attachée à lui. Donc même si pour te donner la victoire, Dieu doit te faire perdre des gens, Dieu est d'accord que des gens t'abandonnent parce qu'il veut que tu saches que ce n'est pas eux qui vont te faire réussir, c'est sa présence. Donc Dieu réduit parce que Dieu veut restaurer. Ah. La restauration, donc, Bishop, n'est pas dans « on revient au grand homme qu'on était ». La restauration n'est donc pas « attendez d'abord d'avoir à nouveau 10 églises ». La restauration, c'est Dieu, vous que Dieu restaure. Et en vous restaurant vous, Dieu vous emmène à un niveau où quand vous allez avoir la victoire, vous savez que vous ne dépendez pas de ceux qui viennent ou de ceux qui partent. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu attends trop. Oui, tu attends trop. Tu attends l'argent, tu attends les soutiens, tu attends les parents, tu attends que... Non, là où Dieu t'emmène, considère là où tu es. Écoutez, je ne sais pas à qui ça appartient, mais c'est une parole prophétique qui est sur la salle. La femme a perdu son mari était prophète. Le mari a laissé des dettes. Ils n'ont plus d'argent. Elle a 2 enfants que les créanciers veulent prendre. Ah. Ça veut dire que le même diable qui a pris son mari, qui a pris son argent, veut maintenant prendre ses enfants. Elle va voir le prophète qui était le père de son mari. Elle dit, ton serviteur, mon mari. Elle met l'ordre, c'est d'abord ton serviteur avant d'être mon mari. Ton serviteur, mon mari, tu sais qu'il craignait Dieu. Écoutez-moi, la crainte de Dieu ne rend pas riche. Servir Dieu ne nous sort pas des dettes. Tu peux craindre Dieu et être pauvre. Tu peux servir Dieu et être dans les dettes. Mais la Bible dit qu'elle va lui dire, ton serviteur, mon mari craignait Dieu, servait, mais il a laissé des dettes. Les créanciers veulent prendre les enfants. L'homme de Dieu ne lui donne pas de l'argent. Combien est-ce que tu dois? Tiens, je règle la dette. Est-ce que Élisée n'avait pas l'argent? Si, puisqu'il refuse l'argent de Naaman. Tu ne peux pas refuser l'argent de Naaman quand tu es pauvre. C'est-à-dire que ce qui te permet de pouvoir dire non à certaines offrandes, c'est parce que toi-même tu sais que je paye mes factures. Là où je suis, je n'ai pas besoin. Ton argent ne change pas ma life. Quand tu es pauvre, il y a même des offrandes que tu vas chercher. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, c'est toi qui vas courir après Naaman, ce n'est pas Géasi. La Bible dit donc que Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Écoutez-moi bien, elle vient de la maison. Elle est sortie de la maison parce qu'elle a identifié que chez elle, il n'y a pas ce qu'il faut pour payer la dette. Si elle pensait qu'elle avait chez elle ce qu'il faut pour régler le problème, elle ne serait pas sortie de chez elle. Elle sort de chez elle parce qu'elle a identifié que là, il n'y a rien. Je vais voir le prophète parce que dans sa maison, il a ce qu'il faut pour payer mes dettes. L'homme de Dieu ne l'emmène pas chez lui. Il la ramène chez elle. Qu'as-tu à la maison? La femme dit, je n'ai rien, mon Dieu. Là, le ciel était comme ça. Et il ne faut pas qu'elle dise ça. Et la femme. Et alors qu'elle était en train de dire, je n'ai rien, Dieu a dû intervenir. Un ange a dû la piquer. Si ce n'est qu'un peu d'huile. Ça veut dire que son serviteur n'a peut-être pas laissé l'argent, son mari. Mais il a laissé l'huile. Tu n'es pas vraiment pauvre si tu as l'huile. Si tu as l'huile, tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu as l'huile, l'huile va créer l'argent. Si tu as l'huile, et c'est pour ça que je plains les gens qui ont l'argent mais pas d'huile. Parce que l'argent ne fabrique pas l'huile, mais l'huile peut fabriquer l'argent. Vers la montagne des oliviers. Tu dois savoir que là où tu es, tu dois identifier qu'il y a l'huile. Il y a l'huile. On peut tous dormir comme les vierges folles et sages. Mais l'une des différences, c'est que celle qui dort, est-ce que tu as l'huile quand tu vas te réveiller ou bien tu vas devoir aller acheter l'huile? Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un, l'huile s'achète. Ah. Quand on n'a pas l'huile, ce n'est pas une fatalité. Si tu n'as pas l'huile, tu es capable d'acheter l'huile. Comment on achète l'huile? Par la prière et par le jeûne. Comment on achète l'huile? En semant dans la vie de ceux qui ont l'huile. Comment on achète l'huile? La Bible dit que cette femme, finalement, on va dire, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. Le serviteur va lui dire, le prophète va lui dire, va et emprunte. Mais j'ai déjà les dettes. Comment tu me pousses à rien en plus de dettes? Va et emprunte un grand nombre de vases, pas un petit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est même pas dans les choses que je vais vous dire, mais je vais atterrir parce que je veux comprendre. Va et emprunte un grand nombre de vases. Et là, quand je lis le texte, je me rends compte qu'avoir de bonnes relations avec ses voisins, c'est important. Parce que la parole prophétique ne règle pas ça. Si tu te comportes mal avec les gens, dans les moments où tu auras besoin d'eux, tu vas aller frapper chez qui? Et emprunter, bonjour, est-ce que je peux avoir des vases? Bonjour, est-ce que je peux avoir des vases? Bonjour, est-ce que je peux avoir des vases? Et ils sont rentrés dans la maison, il y avait plein de vases. Et la Bible dit qu'elle a commencé à verser l'huile dans les vases, l'huile dans les vases. Et pendant qu'elle versait l'huile dans les vases, l'huile ne finissait pas. Et je vois son fils qui lui apporte un vase, elle verse l'huile. Son autre fils lui apporte un vase, elle verse l'huile. Et à un moment, la Bible dit qu'il n'y a plus de vase. Donc l'huile s'arrête. On n'a pas un problème d'huile, on a un problème de vase. Pourquoi est-ce que vous devez emmener vos enfants à l'église? Pourquoi est-ce que vos enfants doivent vous voir prier, payer la dîme, donner? Parce qu'il faut qu'ils sachent. Ils n'étaient que 4, 3 dans la maison. La mère et les deux fils. Le jour où finalement la maman sort des dettes, tout le monde dans le quartier peut dire c'est une sorcière, peut dire qu'elle a couché avec quelqu'un. Mais ses enfants savent. On était là quand l'huile ne finissait pas. C'est nous qui donnions les vases à maman. Écoute-moi bien, ne prive pas tes enfants d'une vie spirituelle qui va faire que le jour où eux seront dans le besoin, le témoignage de cette vie-là va les emmener à dire le même Dieu qui a sorti maman des dettes me sortira des dettes. J'ai vu l'huile. C'est pas on m'a dit, j'ai vu l'huile, j'ai tenu le vase. Toi, tu as quel témoignage? David est devant Goliath, il est le même Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours, me délivra de cet incirconcis. Alors que le texte raconte que Jésus les envoie dans un village, c'est que la Bible dit, or, tout ceci s'accomplit. Tout ceci arriva afin que s'accomplit la parole prononcée par le prophète. Ça veut dire que ce qui justifie que quand ils arrivent au village, ils trouvent l'ânesse et l'anon attachés. C'est parce qu'il y a une prophétie. La prophétie garde l'ânesse et l'anon attachés jusqu'au temps où le maître en aura besoin. Vous ne m'entendez pas? Le mystère autour du prophétique ou de la voix prophétique, c'est que la voix prophétique ne donne pas juste une direction. La voix prophétique s'assure que là où elle t'envoie, la chose est là. Oh, que Dieu m'aide. La voix prophétique s'assure que quand Dieu te dit « va emprunter les vases », on va te donner les vases. La voix prophétique s'assure que lorsqu'on dit « vous sortirez riche », les voisins vont te donner de l'or. La voix prophétique ne travaille pas que sur toi, elle travaille sur ce dont tu as besoin pour pouvoir permettre à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. La voix prophétique ne garde pas que les gens, elle garde les choses. La voix prophétique ne garde pas que les choses, elle garde le temps. Mon Dieu, mon roi. La voix prophétique ne garde pas que le temps, elle garde les relations. Marie est enceinte de Dieu. Joseph veut la répudier. La Bible dit que dans un songe, Dieu va descendre pour dire, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. C'est moi qui l'ai enceinte. Marie n'a pas convaincu Joseph. C'est le prophétique qui a convaincu Joseph et qui a dit à Joseph, tu ne répudieras pas Marie parce que c'est moi qui l'ai enceinte. La voix prophétique sécurise les relations. La voix prophétique sécurise les biens. La voix prophétique sécurise le temps. La voix prophétique sécurise les opportunités. Quand Dieu parle, il ne parle pas simplement pour t'émoustiller, pour que tu dises amen. Dieu parle pour créer. La première fois que vous voyez la parole être utilisée dans les Saintes Écritures, ce n'est pas pour la communication. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu ne parle pas pour transmettre simplement des émotions. Dieu parle pour créer. Un exemple. Quand Dieu te dit tu es malade, Dieu te dit tu es guéri, ne dis pas le docteur a dit je suis malade. Ne dis pas mais je ressens la douleur. Parce que Dieu ne te parle pas sur la base de ce que tu ressens. Dieu te parle sur la base de ce qu'il est capable de créer par sa parole. Ça m'énerve quand je vois la Bible et que je lis dans la Bible qu'un homme malade depuis 38 ans, assis au bord d'une piscine, Jésus le voit et je lui dis, veux-tu être guéri? Mais comment tu peux mal me parler comme ça? Respecte ma douleur, respecte le fait que je sois à côté de la piscine de Bethesda et que je suis encore là parce que je crois qu'on peut me guérir. Je crois qu'un jour quelqu'un m'aidera. Mais Jésus lui demande, veux-tu être guéri? L'homme identifie que le problème, c'est pas ce qu'il veut, c'est l'absence des gens pour l'aider. Il dit, je n'ai personne pour m'aider à tomber dans l'eau. Et dès que j'y arrive, quelqu'un d'autre descend avant moi. Jésus lui ne parle même plus parce qu'il n'a pas demandé, est-ce que tu as des gens? Est-ce que tu veux être guéri? L'homme dit, je n'ai personne. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous, ça ne vous fait rien. Moi, ça m'énerve que tu dises à quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans, lève-toi. Tu penses qu'en 38 ans, il n'a pas essayé? Non, soyons sérieux. Tu penses qu'en 38 ans... Regarde comment Élie parle mal à Anne. Anne arrive, elle est sur l'autel. Elle est en train de pleurer. Pendant qu'elle pleure, Anne pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Élie voit seulement les lèvres bouger, mais il n'y a aucun son. Et puis Élie, le sacrificateur, l'homme de Dieu, l'apôtre, l'évêque, le pasteur, dit à la fidèle, tu es ivre, toi tu bois mal. Même le matin tu bois. Au réveil tu bois. C'est quel genre de femme qui boit comme ça? La femme ne se fâche pas. Si c'était toi, tu aurais certainement remis le pasteur à sa place. Tu aurais remis l'homme de Dieu à sa place. Tu aurais dit, regarde un faux homme de Dieu comme ça. Discernement zéro, amour zéro, compassion zéro. La Bible dit que Anne va regarder l'homme de Dieu et elle va dire, non mon Seigneur, c'est la douleur. Ne prends pas l'état de ta servante pour de l'ivresse, c'est de la douleur. Ça veut dire que parfois la douleur te rend ivre. Quand les gens te regardent, on pense que tu es saoul, mais tu souffres. La Bible dit que l'homme de Dieu ne va pas lui demander quel est ton problème. L'homme de Dieu ne va pas demander le sujet de prière. L'homme de Dieu ne va pas dire, tiens le mouchoir, va avec. L'homme de Dieu ne va pas dire, vraiment laisse-moi t'imposer les mains. Il n'y aura aucune huile qui va tomber sur elle. La seule chose qu'il va lui donner, c'est la parole. Il va lui dire, repars à la maison, Dieu t'a exaucé. Comment est-ce que Dieu t'a exaucé? Comment est-ce que tu peux dire que Dieu m'a exaucé? La seconde d'avant, tu disais que j'étais ivre. Comment je peux faire confiance à ce que tu dis? Parce que je me suis rendu compte à l'Ikadeba'a que l'erreur ne change pas le pouvoir de bénir. Je dis que quand tu as le pouvoir de bénir, même quand tu te trompes, je peux me tromper sur ton prénom. Je peux me tromper sur ta situation. Mais je ne peux pas me tromper quand je te bénis. Quand je te bénis, même si je suis dans l'erreur, tu es béni. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais j'essaye de parler à quelqu'un. Le mystère de la voix prophétique, c'est que tu n'as pas besoin d'huile. Tu n'as pas besoin de position des mains. Tu as juste besoin d'une parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à l'église ce matin? Vous n'êtes pas venu voir un homme. Vous n'êtes pas venu voir un évêque. Vous n'êtes pas venu voir un pasteur. Vous êtes venu recevoir une parole. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un ce matin que tu n'es pas venu en balade et tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour qu'une parole soit libérée sur ta vie. Tu es venu pour que Dieu parle. Et quand Dieu parle, même si Dieu se trompe, Dieu ne se trompe pas. Si Dieu appelle une chaise verte, une chaise rouge, la chaise verte doit devenir rouge. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un sous le son de ma voix, avant la fin de cette réunion, tu repartiras avec une parole. Tu repartiras avec ta parole. Amen.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.